Bonjour, cher ami. Nous vous réservons un message extraordinaire. Lorsque vous lisez les Écritures, vous pouvez constater que Dieu a utilisé de nombreuses femmes de manière puissante. Aujourd'hui, Harrison Conley, notre fils, qui est également le pasteur principal ici à Cottonwood, va partager une histoire et quelques principes tirés de la vie de femmes qui ont eu un impact incroyable sur le royaume de Dieu et, par conséquent, sur notre vie. Passons donc sans plus attendre à notre message.
Bonjour, je m'appelle Bayless Conley. Dans la vie, nous sommes tous confrontés à l'incertitude, qu'il s'agisse de problèmes financiers, de difficultés relationnelles, d'une crise de santé ou de la recherche d'un but. Une chose est sûre, Dieu vous voit, il vous aime. Et quelle que soit la situation à laquelle vous êtes confronté, il a les réponses.
2 Timothée 1, 3, 7. C'est l'apôtre Paul qui a écrit. Il est en prison à Rome. Il est proche de la fin de sa vie et pense à son jeune protégé, le pasteur Timothée. Voici ce qu'il dit au verset 3. Je suis reconnaissant envers Dieu, que je sers à l'exemple de mes ancêtres avec une conscience pure, lorsque sans cesse, nuit et jour, je me souviens de toi dans mes prières. Je me rappelle tes larmes et je désire te voir afin d'être rempli de joie. Je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Elle a d'abord habité ta grand-mère, Loïs, et ta mère, Eunice, et je suis persuadé qu'elle habite aussi en toi. C'est pourquoi, je te le rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ceci est la parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu pour cela. L'influence d'une mère est incroyablement puissante. Ce qui est incroyable, c'est que parfois, cette influence semble subtile. Elle semble même parfois invisible. Pourtant, elle est indéniablement forte. Je vois l'influence d'une mère comme le gouvernail d'un navire. Le gouvernail est parfois invisible. Il est parfois très petit. Pourtant, il a la capacité et la puissance de faire tourner tout un navire, de diriger et de naviguer à travers les mers les plus agitées et les eaux les plus tumultueuses. Mère, voilà ce que votre influence accomplit. Aujourd'hui, je veux souligner cela et je veux célébrer cette influence. Que vous soyez une mère biologique ou une grand-mère avec vos propres enfants ou petits-enfants. Peut-être êtes-vous une mère d'accueil, une belle-mère ou une mère adoptive. Peut-être même que ces titres ne vous décrivent pas bien en cette saison, mais vous êtes une mère spirituelle et vous êtes un mentor. Vous transmettez ce que vous avez aux autres. Quel que soit le rôle maternel que vous jouez, je veux simplement vous encourager en vous disant que votre vie compte vraiment. L'influence que vous exercez sur ceux qui vous entourent compte vraiment. En m'entendant dire cela, vous pensez peut-être que j'exagère ou que cela ressemble à un discours de prédicateur. Je veux que vous sachiez que vous faites vraiment une différence. Je le sais grâce à notre texte. Je voudrais revenir un instant sur ce passage. Encore une fois, c'est l'apôtre Paul qui écrit. Il s'adresse à Timothée, un jeune homme. Timothée s'est vu confier une responsabilité énorme. Il a été chargé d'être le pasteur de l'une des plus grandes églises du Nouveau Testament, située dans une ville appelée Éphèse. Dans les premiers versets de cette lettre, Paul nous donne à la fois un aperçu et un instantané puissant d'une dynamique familiale qui a changé le monde. Non pas parce que cette dynamique était idéale, mais parce qu'elle était fidèle. La première observation que je voudrais vous soumettre est la suivante. Je voudrais que vous réfléchissiez à la dynamique familiale de Timothée. Revenons au passage à partir du verset 3. Paul écrit « Je suis reconnaissant envers Dieu, que je sers à l'exemple de mes ancêtres, avec une conscience pure, lorsque sans cesse, nuit et jour, je me souviens de toi dans mes prières. » Je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Remarquez ensuite ceci. Elle a d'abord habité ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice. Paul dit, « Je suis persuadé, Timothée, qu'elle habite aussi en toi. » Donc, encore une fois, dans le contexte, Paul écrit à Timothée. Il lui fait savoir, « Je pense à toi. Timothée, je prie souvent pour toi. Chaque fois que je le fais, je me souviens de la foi sincère qui est en toi. » Quelle belle chose à se rappeler. Quelle belle chose pour laquelle être connu. Puissions-nous tous nous souvenir de la foi sincère de quelqu'un dans notre vie. Lorsque les gens pensent à nous, puissent-ils dire de nous que nous étions des personnes de foi sincère? Mais remarquez ceci. D'où vient cette foi selon Paul? Au verset 5, il dit « La foi sincère qui est en toi, elle a d'abord habité ta grand-mère, puis ta mère. » Il dit que cette foi sincère a commencé avec la grand-mère et la mère. Cette lettre est adressée à Timothée. Il a un travail, un titre et des responsabilités considérables au sein de l'Église. Mais selon Paul, qui sont les véritables héroïnes de cette histoire? Grand-mère Loïs et maman Eunice. Je trouve cela vraiment spécial. En parlant de dynamique familiale, je voudrais que vous remarquiez autre chose. Quelque chose qui manque dans ce passage, ou plutôt quelqu'un. Papa. Papa n'est mentionné nulle part dans ce passage. Cela ne nous choque pas forcément, ni ne nous semble étrange, dans notre mode de vie du 21e siècle. Malheureusement, nous sommes habitués à des familles dont la dynamique est particulière, où les pères sont moins présents ou moins impliqués qu'ils ne l'étaient dans les générations précédentes. Inconsciemment, nous avons tendance à lire ce passage à travers le prisme de notre époque et de notre construction sociale moderne, et nous oublions qu'au 1er siècle, en particulier pour les lecteurs de cette lettre, le fait que le père de Timothée ne soit pas mentionné était un signal d'alarme majeur. Parce qu'au 1er siècle, les pères étaient censés être les chefs spirituels de leur foyer. Le fait que le père de Timothée ne soit pas mentionné ici, d'ailleurs il n'est mentionné nulle part, à l'exception d'une brève remarque en Actes 16:1 qui nous dit que le père de Timothée était grec et qu'il n'était probablement pas croyant. C'est tout ce que l'on sait de lui. Lorsque l'on rassemble ces indices limités mais instructifs, une image se dessine. Il s'agit d'une structure familiale, d'une dynamique familiale où quelque chose a terriblement mal tourné. Nous ne savons pas si le père a quitté la famille, s'il est décédé, ni s'il était simplement détaché spirituellement. Mais quoi qu'il en soit, nous savons avec certitude que ce n'était pas papa qui nourrissait la foi de Timothée. C'étaient les femmes de sa vie. C'était sa mère, Eunice, et sa grand-mère, Loïs. Elles portaient le poids spirituel de la famille. Écoutez, cela vous rappelle peut-être votre propre histoire. Vous êtes peut-être une mère célibataire et vous faites de votre mieux. Vous cumulez plusieurs emplois et restez éveillé tard le soir lorsque vous rentrez chez vous. Vous priez pour vos enfants pendant qu'ils dorment et vous vous demandez « Est-ce que tout cela a vraiment un impact ?» Écoutez, vous avez un impact. Car il y a de fortes chances que ce soit exactement le genre de foyer dans lequel Timothée a grandi. Vous regardez peut-être votre vie familiale en vous disant « Ce n'est pas idéal. Ce n'est pas ce que j'avais imaginé ou envisagé. Ce n'est pas ce qu'on m'a enseigné. » Peut-être que votre structure familiale ne correspond pas parfaitement à l'image que Dieu présente dans sa parole. Si c'est votre cas, je voudrais vous encourager. Là où l'idéal fait défaut, la grâce de Dieu abonde. Je sais cela avec certitude au sujet de la grâce de Dieu. Elle est plus que suffisante. Elle est faite sur mesure pour nous, et dans notre faiblesse, sa grâce est forte. Dieu n'est pas limité par votre situation, et il est plus que capable d'agir à travers votre foi. Il est plus que capable d'agir à travers votre persévérance. Il est plus que capable d'agir à travers vos prières, tout comme il a agi pour Loïs et pour Eunice. Écoutez-moi, la foi se forme au milieu de la vie réelle. Ce n'est pas n'importe quelle foi qui se forme. Voici ce que dit Paul, et c'est la deuxième observation que je voudrais vous soumettre. Paul dit que le genre de foi qui s'est formé en Timothée était une foi sincère. Remarquez d'où vient, selon Paul, cette foi sincère. C'est la même foi sincère qui était d'abord en grand-mère, puis en maman. J'y reviendrai dans un instant, mais je voudrais explorer le mot, le qualificatif, l'adjectif sincère que Paul utilise. Le mot sincère signifie littéralement « une foi vivante ». Il signifie « avoir une foi honnête ». Il signifie « une foi sans hypocrisie ». La plupart d'entre vous connaissent le terme « hypocrisie » et le fait que cela provient du théâtre grec antique et de l'acteur qui tenait un masque, et celui qui le portait était appelé l'hypocrite. Il avait deux visages. Ainsi, lorsque Paul utilise le qualificatif « sincère » pour décrire la foi, il veut dire qu'il ne s'agit pas d'une foi factice, réservée au dimanche. Vous voyez ce que je veux dire? Le dimanche, nous enfilons notre masque de chrétien pour que les autres le voient. Mais du lundi au samedi, ce masque chrétien est rangé dans un tiroir. Et nous menons une vie complètement différente. Même si cela me peine de le dire, l'Église américaine est devenue très douée pour porter le masque de la foi le dimanche, tout en vivant comme nous voulons du lundi au samedi. Et nous nous sommes convaincus que Dieu est d'accord avec cela, ou même qu'il en est satisfait. Mais comprenez, le monde et notre entourage regardent l'image de notre vie. Ils regardent ce qu'il leur est présenté et comparent cette image à celle que Dieu présente dans sa parole, de ce à quoi devrait ressembler une personne de foi. Ils regardent notre image, puis ils regardent celle de Dieu et ils disent « Ah, tu ne ressembles pas à ton image !» Et nous nous demandons pourquoi il y a une crise de la foi parmi les jeunes. C'est parce que l'image de notre vie est censée être marquée par une foi sincère et non par une foi qui ne se manifeste que le dimanche, une foi sincère et vivante. Le genre de foi qui nous anime et que nous vivons jour après jour. Pas seulement le genre de foi que nous rappelons à la surface lorsque nous sommes en difficulté ou lorsque nous avons besoin de quelque chose, ni le genre de foi dont nous ne parlons que lorsque nous sommes entourés de chrétiens. Non. Une foi sincère, vécue, honnête, sans hypocrisie. Dans notre texte, Paul cherche vraiment à souligner que la foi sincère qui anime Timothée n'est pas le fruit du hasard. Elle n'est pas seulement le résultat de son appel ou du fait que, puisqu'il est prédicateur, il a, bien sûr, une foi sincère. Au contraire, Paul nous fait comprendre que cette foi sincère a une racine, une origine et un éthos. Elle a commencé avec sa mère et sa grand-mère. Elle était d'abord chez Loïs et Eunice. Cela nous apprend quelque chose de très important. Voici la troisième observation. La foi sincère est contagieuse. Elle est contagieuse. Pour être clair, Timothée a attrapé cette foi et l'a ensuite embrassée. Non pas parce qu'elle lui a été imposée, mais parce qu'il l'a vue se manifester chaque jour. Ces femmes n'ont pas seulement prêché la foi. Elles l'ont mise en pratique. Timothée les a observés vivre leur foi et a dit « Il y a quelque chose de vrai dans la foi de grand-mère. Il y a quelque chose de vrai dans la foi de maman. » Quand elle parle de Dieu, on dirait qu'il y a une vraie relation entre eux. Quoi que ce soit, quoi qu'elles aient, je veux ça aussi. Il a vu leur foi se manifester quand l'argent se faisait rare, quand les voisins colportaient des ragots sur leur situation familiale, lorsqu'il rentrait à la maison en pleurant parce qu'on s'était moqué de lui à l'école, parce que son père n'était pas là. Ces femmes ont mis leur foi en pratique devant lui. Le plus beau, c'est que ce n'était pas nécessairement bruyant. Maman et grand-mère n'avaient pas besoin de se tenir au coin de la rue avec un micro et un mégaphone pour crier l'évangile aux passants. Au contraire, c'était simple, sincère, et cela se reflétait dans leur façon de vivre à la maison. C'étaient les paroles qu'elles échangeaient avec Timothée, les paroles qu'elles échangeaient entre elles, la crainte et le respect qu'elles manifestaient devant Dieu, l'adoration sincère qu'elles offraient au Seigneur. C'était la sincérité de ces choses qui rendait leur foi suffisamment forte et claire pour être vue et remarquée par Timothée. On pourrait peut-être le dire ainsi. La foi sincère se forme dans l'ombre, et pas seulement sous les projecteurs. Elle ne se forme pas seulement devant un groupe de personnes, mais elle se forme et se manifeste dans les tâches ordinaires et banales de la vie. C'est lorsque vous êtes la même personne à la maison qu'à l'église. Je pense que cette foi sincère se manifestait dans la façon dont maman Eunice priait. Lorsqu'elle pensait que personne ne la regardait ou ne pouvait l'entendre. Écoutez, parents, ces moments cachés, ces prières cachées ne sont pas aussi cachées que nous le pensons. Les enfants sont perspicaces. Ils comprennent beaucoup plus que nous ne le pensons. Personnellement, je repense à certains de mes premiers souvenirs, des moments auxquels je repense assez régulièrement. Et je pense à ma mère. Nous en avons parlé il y a un instant. Quand j'étais jeune, je me réveillais tôt le samedi matin pour descendre regarder des dessins animés. Pour descendre, je devais passer devant la chambre de mes parents. Souvent, elle pensait être la seule à être réveillée et je pouvais l'entendre derrière la porte fermée prier. Élever mon nom et celui de mes frères et sœurs devant le Seigneur. C'était une habitude quotidienne pour elle. Aujourd'hui encore, elle continue de le faire. Je sais que ces petits moments cachés de la vie peuvent sembler insignifiants, mais je vous assure qu'ils laissent une empreinte durable. Aujourd'hui encore, si vous me posez la question, je vous répondrai « Si je suis dans le royaume et si je sers le Seigneur, c'est parce que j'avais une mère qui priait et qui m'élevait devant le Sauveur. » Mesdames, ne sous-estimez jamais l'influence et l'impact que vous avez à la maison. Revenons un instant à Timothée. Ne pouvez-vous pas l'imaginer, ressentant la paix qui régnait dans leur foyer? La paix que sa mère et sa grand-mère incarnaient, même dans les moments difficiles? Ne pouvez-vous pas le voir reconnaître l'intégrité avec laquelle elle travaillait et s'exprimait, même lorsque personne ne les regardait? Ne l'imaginez-vous pas émerveillé par leur confiance en Jésus, même lorsque rien ne semblait leur sourire? C'est ainsi que les premières graines d'une foi sincère sont semées dans la vie d'une personne. Lorsque les gens nous voient croire en la parole de Dieu, lorsqu'ils nous voient faire confiance à Jésus et vivre pour lui-même lorsque c'est difficile. C'est ainsi que la foi devient sincère. La foi ne devient pas sincère ou réelle dans la vie de nos enfants parce que nous allons à l'église ou que nous les y obligeons. Aller à l'église est une bonne chose, et c'est normal. Les Écritures nous enseignent à le faire, mais aller à l'église ne fait pas de moi un chrétien. Tout comme le fait d'être assis dans l'abri des Dodgers ne fait pas de moi un Dodger, ou le fait d'être assis dans un garage ne fait pas de moi une voiture. Les Écritures disent « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ». Il est donc extrêmement important pour la vie chrétienne d'aller à l'église et d'écouter la parole. Le Nouveau Testament nous enseigne à ne pas abandonner notre assemblée, surtout alors que nous voyons le jour du retour de Jésus approcher à grands pas. Mais c'est ainsi que la foi commence. Nous sommes dans la maison, nous sommes à l'église et nous écoutons la parole. Savez-vous comment la foi grandit, se développe et s'affine? En sortant cette fois des quatre murs de ce bâtiment. Elle grandit, se développe et mûrit dans la vie quotidienne où nous vivons pour Jésus. À l'extérieur, et pas seulement sur les bancs de l'Église. La foi sincère se développe et se forme lorsque nous choisissons de vivre jour après jour pour le Sauveur. Lorsque nous choisissons de rester fidèles à notre foi et refusons de l'abandonner même lorsque les choses sont difficiles, qu'elles n'ont pas de sens, qu'elles ne se passent pas comme nous le souhaitons, que nous recevons de mauvaises nouvelles du médecin, du propriétaire ou du patron. À vrai dire, il n'est pas toujours facile de développer une foi sincère dans notre vie. Je pense que, le plus souvent, développer la foi dans notre vie est compliqué. Pourquoi? Parce que la vie est compliquée. Personnellement, je n'ai pas toujours les réponses. Personnellement, Dieu ne semble pas toujours agir selon mon calendrier. Et les différentes situations et circonstances de la vie ne se déroulent pas toujours comme je le voudrais. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cela signifie que la foi sincère dans notre vie se forge dans le creuset des épreuves. Dans les moments difficiles et éprouvants, nous choisissons de nous accrocher à Jésus et de nous ancrer dans sa parole et ses promesses, peu importe ce que la vie nous réserve, car la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est croire Dieu sur parole et dire « Seigneur, rien n'a de sens en ce moment. Et dans le monde naturel, cela ne fonctionne pas, mais je me tourne vers toi, vers ta parole. Et parce que tu l'as promis, je sais que tu tiendras ta promesse. » C'est cela la foi sincère. Comme je l'ai déjà dit, les gens observent notre vie. Ils voient comment nous vivons, en particulier nos enfants. Ils voient la foi que nous prétendons avoir. Nous ne pouvons pas feindre la foi devant eux. Ils ne font peut-être pas toujours ce qu'on leur dit de faire, mais ils ne manquent jamais de remarquer ce qu'on fait. Nous pouvons leur répéter, « Mon fils, ma fille, vous devez avoir la foi, mais nous devons la vivre devant eux. » Jacques, le frère de Jésus qui a écrit le livre de Jacques dans le Nouveau Testament, en parle en Jacques 2,17. Il dit que les mots ne suffisent pas. Certaines personnes disent qu'elles ont la foi. Il leur répond, « Alors montre-moi tes œuvres. » Car la foi sans action correspondante, la foi sans vie correspondante, cette foi, ces éléments, sont morts. La foi sans les œuvres est morte. Si nous voulons transmettre une foi sincère, nous devons la vivre avec cohérence. Cela ne signifie pas que nous devons être parfaits. Nos enfants et ceux que nous influençons n'ont pas besoin que nous soyons parfaits, mais que nous soyons fidèles. Récemment, une maman de l'église est venue me voir après le service et m'a dit « Je n'ai pas toujours les bons versets à dire à mes enfants, mais j'ai un doctorat en câlins et en prières. » Honnêtement, maman, dans la plupart des cas, cela a beaucoup plus d'impact qu'un diplôme en théologie. Il ne s'agit pas d'être un expert spirituel. Il s'agit d'être vulnérable, disponible et authentique. Il s'agit de diriger ceux qui sont sous notre influence vers Jésus à travers la façon dont nous vivons notre vie. Une dernière observation tirée du texte, puis nous conclurons et nous nous assurerons que vous puissiez partir à temps pour devancer les baptistes déjeuner. C'est la fête des mères, je sais que vous avez des plans. Une dernière observation qui découle de la précédente. Quatrièmement, la foi est générationnelle, mais elle n'est pas automatique. Revenons au verset 5 et regardons ce que dit Paul. Quand je pense à toi, Timothée, je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Elle a d'abord habité ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice, et je suis persuadé qu'elle habite aussi en toi. Paul fait ici une distinction très importante. Timothée devait choisir de croire par lui-même. Sa grand-mère ne pouvait pas croire à sa place. Sa mère ne pouvait pas se repentir à sa place. Elle lui avait préparé le terrain. Mais c'était à lui de faire un pas de foi. C'est la tension que ressentent tous les parents. Voici la bonne nouvelle. L'exemple sincère que nous leur donnons crée un terrain fertile. Nous ne pouvons peut-être pas produire un résultat particulier, ni le contrôler, mais nous pouvons créer l'environnement et le façonner pour eux. C'est exactement ce que Loïs et Eunice ont fait pour Timothée. Leur foi ne garantissait pas le salut de Timothée, mais elle lui a donné une place d'honneur pour voir la fidélité de Dieu. Nous ne savons pas où ni même comment, mais à un moment donné, Timothée s'en est emparé pour lui-même. Il n'a pas seulement retenu l'information, il a saisi cette conviction vivante et y a cru pour lui-même. Ce texte et l'histoire nous montrent que Timothée n'a pas seulement cru, mais que cette foi sincère est devenue le trait caractéristique de sa vie. 2000 ans plus tard, nous avons le recul nécessaire et pouvons constater l'effet boule de neige. Timothée est devenu l'une des figures les plus influentes de toute l'histoire de l'Église. Encore une fois, 2000 ans plus tard, nous parlons toujours de lui. Nous lisons les lettres qui lui ont été écrites et nous sommes toujours influencés par son ministère. Pourquoi? Parce que deux femmes ont choisi de vivre leur foi devant lui. Voilà le pouvoir d'un héritage générationnel. Mère, vous ne prêcherez peut-être jamais un sermon, n'écrirez peut-être jamais un livre théologique ou ne fonderez peut-être jamais une église. Mais si vous élevez un enfant qui connaît Jésus, un enfant qui marche dans la vérité, vous changez le monde. La Bible dit que si nous élevons un enfant d'après la voie qu'il doit suivre, il ne s'en écartera pas quand il sera plus âgé. Regardez Loïs et Eunice. Elles sont l'image même de l'héritage. Lorsqu'il s'agit d'héritage spirituel, nous avons tendance à voir les choses en grand, de manière spectaculaire. Nous imaginons des stades remplis de monde, des croisades et des conférences. Mais le plus souvent, l'héritage spirituel ressemble à ceci. Une mère à genoux devant le Seigneur. Une grand-mère qui jeûne pour ses petits-enfants. Des femmes qui mènent discrètement une guerre spirituelle dans leur foyer. Écoutez-moi, l'enfer est terrifié par une mère pleine de foi qui prie. Alors à toutes les femmes présentes ici ce matin, que vous soyez une mère biologique, une grand-mère, une mère spirituelle ou un mentor pour les autres, vous devez savoir ceci. Vous êtes aimée. Vous êtes précieuse. Mais plus que cela, vous êtes absolument indispensable à l'œuvre que Dieu accomplit sur terre. Alors aujourd'hui, nous nous levons, nous vous bénissons et nous remercions Dieu pour vous. Nous remercions Dieu pour tout ce que vous faites.
Mesdames, j'aimerais insister particulièrement sur ce point. Vous êtes aimées. Et nous sommes reconnaissants de l'influence que vous avez dans le monde, de l'influence que vous avez dans votre foyer, de l'influence que vous avez peut-être sur votre lieu de travail et auprès de vos proches. Dieu veut vous utiliser de manière puissante. Je pense souvent à la femme que Jésus a rencontrée au puits. Jésus s'est révélé à elle comme étant le Messie. C'était la première fois qu'il faisait cela, et ça a été à une femme. Elle laisse sa cruche là, court vers la ville et dit « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ?» Tout un groupe de personnes est venu voir Jésus. Il a passé du temps avec elle, et beaucoup d'entre elles ont été convaincues qu'il était le Fils de Dieu, mais tout a commencé grâce à l'influence d'une femme. Que Dieu vous utilise de manière puissante, ma sœur, que Dieu vous bénisse.
Ce message vous a encouragé ? Si oui, nous serions heureux que vous nous aidiez à produire d'autres émissions. Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur bayless-conley.fr/don et pourrez également faire un don directement en ligne. Les dons réguliers sont d'une grande aide pour notre planification, mais chaque soutien ponctuel a également un impact important. Merci beaucoup.
Souhaitez-vous relire la diffusion, tranquillement, à votre rythme ? Téléchargez dès maintenant le texte du message sur bayless-conley.fr/texte. Si vous avez d'autres questions ou souhaitez que nous prions pour vous, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez également nous contacter via notre site internet.